Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Elle.
Aujourd'hui, ce n'est pas un auteur que je reçois, mais des lecteurs. Car je suis heureuse d'accueillir quatre lycéens qui viennent d'une classe de première et d'une classe de terminale du lycée Saint-Joseph à Toulouse, accompagnés par leur professeur de français, Laetitia Géraldès-Sabat. Et voilà, et leur choix de lecture s'est porté sur un livre qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Ce prix, créé en 1988, a acquis ses lettres de noblesse et on pense qu'il n'est pas ou peu soumis aux pressions des maisons d'édition. Il s'agit du roman de Gaël Faye intitulé « Petit pays ». Roman qui se déroule au Rwanda pendant la guerre de 1995 qui a vu se perpétrer un génocide effroyable. Le sujet malheureusement reste d'une actualité très brûlante et il est loin d'être clos. Bonjour et merci à vous d'être venus.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, et alors on va commencer par parler de Gaël Faye qui est quand même un personnage un peu hors du commun. Alors une courte bio que Sancy va nous lire. Alors Sancy de Corail, j'aurais dû d'ailleurs vous annoncer dès le départ. Il y a donc Sancy de Corail qui va nous lire cette bio de Gaël Faye. Il y a Jessica Queneau qui nous lira des extraits également, tout comme Mao Bonga et tout comme Raphaël Navarro. Voilà, donc, on vous écoute. Sancy, vous allez nous lire une petite biographie.
Oui, donc Gaël Faye est né en 1982 à Bujumbura au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. En 1995, après le déclenchement de la guerre civile et le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, il arrive en France, dans les Yvelines, où il découvre le rap et le hip-hop. Il étudie dans une école de commerce, obtient un master de finance et travaille à Londres, qu'il quitte pour se lancer dans l'écriture et la musique. Avec Edgar Sekloka, il forme un duo qui sort un album en 2009 et est nommé « Découverte du printemps de Bourges » en 2011. Le duo se sépare, puis Gaël Faye reçoit le prix Charles Cros des lycéens en 2012 et 2014 de la nouvelle chanson francophone.
Voilà, alors c'est un garçon que moi je trouve talentueux, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que tant sur le plan musical que sur le plan de l'écriture. Et alors, il dit que pour conjurer le traumatisme du génocide rwandais, il a d'abord eu besoin d'écrire de la musique, des chansons. Il a eu besoin. Alors, est-ce que vous le connaissiez, lui, avant cela ?
Pas moi, personnellement.
En tant que musicien, non ?
Non, absolument pas.
Alors moi, je vous propose d'écouter justement une de ses chansons et qui colle tout à fait à ce roman, puisque de toute façon, ça s'appelle Petit Pays.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye. Warago weni wagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
Ni wakomoma murumusha wanje.
Gaugu katoyi,
gaugu kaniniya.
Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
D'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous venons d'entendre une belle introduction pour parler du roman de ce même auteur, Gaël Faye, qui, je le rappelle, a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Alors, moi je vais demander à Raphaël de nous lire le résumé, un résumé un peu bref, bien sûr, de ce roman Petit Pays.
Le héros s'appelle Gabriel, c'est un jeune Burundais, Tutsi. C'est un métis né d'un Français et d'une Rwandaise, Tutsi. Il vit dans une impasse du centre de Bujumbura. La guerre arrive en commençant par des tensions, des bagarres, des meurtres et de la violence gratuite. Gabi, lui, au centre de tout ça, est un spectateur direct et une victime du conflit qui arrive. On voit que c'est un enfant qui voit les monstruosités qui peuvent arriver de la guerre. Et d'une idéologie qui part du monde des adultes et qui arrive dans celui des enfants.
Mmh. Oui. On va entrer dans le vif du sujet d'abord, mais d'abord, vous savez qu'il a eu énormément de prix, ce livre. Vous êtes au courant? Oui. À quoi vous attribuez ce succès?
Bah, au sujet, parce que c'est un sujet quand même qui est relativement actuel. Le génocide rwandais, c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus... c'est les années 90, donc c'est encore récent, encore chaud. Donc c'est un sujet qui touche pas mal les gens. Donc déjà, je pense le contexte.
Le sujet, d'accord.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant du génocide rwandais, j'ai l'impression.
D'accord. Vous n'avez pas lu, je vous le dis en passant, il y a une saison de Machette, de Asfeld. Je ne sais pas si vous... On en a beaucoup parlé. C'est pas vu à travers le regard d'un enfant, ce n'est pas un roman, c'est c'est un document plutôt, et c'est un livre remarquable, et il était venu ici à votre place. Mais effectivement, il y a eu peu de choses, et surtout vu à travers d'un enfant. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ce succès?
Déjà, le point de vue, c'est vu par un enfant rwandais, donc il a vécu ce génocide en tant que Tutsi, il a dû fuir son pays, et c'est la façon dont il le raconte, c'est très touchant.
Oui. Et le style aussi.
Il y a des passages très drôles au début, dans la première partie. C'est plutôt une première partie heureuse.
Alors, je sens que Jessica, on va en reparler de l'humour aussi qu'il y a, parce que c'est un enfant, il parle comme un enfant. Donc, oui. On en parlera, parce que je pense que vous aurez quelque chose à nous lire là-dessus. Alors, quel genre littéraire, selon vous, ça appartient à... C'est quoi? Est-ce que c'est d'abord une autobiographie?
Non, pas tout à fait.
Il paraît que non.
Pas tout à fait. Mais parce que l'auteur s'appelle Gaël et l'enfant s'appelle Gabriel. C'est déjà une différence qui fait que ce n'est pas une autobiographie.
C'est vrai.
L'auteur lui-même avait dit qu'il avait, si je me rappelle bien, qu'il avait changé certains passages de l'histoire. Soit on est peut-être, je ne sais pas, peut-être pour atténuer certains passages de la guerre qui sont trop violents pour être écrits, ou peut-être pour en accentuer certains d'autres.
Mais déjà, le fait qu'il ait une petite sœur dans le livre, qu'il n'a pas dans la réalité.
C'est vrai.
Il a une petite, pardon ?
Il n'a pas de petite sœur dans la réalité, alors que dans le livre, il en a une.
Oui. Mais justement, à votre avis, pourquoi l'a-t-il écrit, ce livre, finalement ? Vous avez une idée ?
Peut-être pour s'apaiser lui-même, comme pour la chanson. Aussi, peut-être que tout le monde, comme on disait, le génocide rwandais a été, comme c'est des années 90, certes c'est récent, mais on l'a vite oublié. Parce qu'il y a eu d'autres génocides qui étaient plus importants. Puis aussi, peut-être,
Pas forcément plus importants, mais c'est vrai, ce que vous dites.
Peut-être pour en donner le sourire à cette région du monde qui a trop souffert. Pour s'alléger ce poids comme beaucoup d'auteurs ont couché sur le papier, je repense à, je ne sais pas si c'est bienvenu, mais Voltaire sur Lisbonne, où il avait écrit sur un papier l'horreur qui s'est passée à Lisbonne. Peut-être que c'est pour s'apaiser.
Le tremblement de terre, les incendies, oui.
Le remède à son mal-être.
Oui.
Peut-être couchant sur le papier, il a peut-être que ça lui permet aussi, lui, de se soulager et d'en donner un peu aux autres. Que ce soit plus lui à porter tout seul ses vieux démons, mais que les autres le portent avec lui.
D'accord. Je voulais juste une information. Il dit qu'en fait, il était enfant quand il est parti. Il avait que des souvenirs très flous. Il avait besoin d'émettre par écrit ce dont il se souvenait. Il en a rajouté peut-être, au fil de ses lectures à lui aussi. Mmh. Et il dit qu'il ne... Vous le comprenez ça? Il ne pouvait pas en parler à sa famille.
Bah oui. C'est quelque chose de très dur. Et en plus, quand on est enfant, on vit des choses que ne vit pas un adulte, et c'est des choses qui sont personnelles, c'est difficile d'en parler. Sa famille française n'avait pas vécu, a priori, ce qu'il avait vécu. Enfin, peut-être son père, sa mère l'avaient vécu avec lui, mais sa famille, je pense à sa famille qui est restée en France, n'avait pas vécu, ne savait pas ce qu'il portait, lui, de souffrance. Et puis, parler de ça avec sa famille qui était restée là-bas, c'est compliqué aussi, ça fait aussi mal.
Oui, parce qu'il y est revenu, mais apparemment, c'est trop douloureux, ça.
Oui.
Puis, aussi, c'est un enfant. Il est dans un contexte de guerre, et d'une guerre atroce. Un enfant qui vit ça, soit il se renferme, soit il le dit directement. Là, il s'est renfermé. Mais là, il a peut-être essayé de souffler un coup.
Oui. Et vous avez lu d'autres témoignages sur la guerre de la part de jeunes, pas forcément d'enfants, enfin de jeunes?
Mais j'ai connu des Rwandais quand j'étais plus jeune. Ils en parlaient pas beaucoup, mais ils disaient que ce qui s'est passé, c'était horrible, que leur mère... et eux étaient des Tutsis, ils avaient fui la guerre et qu'elle avait dû tout abandonner chez elle, qu'elle était partie avec son sac à main, ses passeports et ses enfants, et qu'elle avait connu qu'elle s'est fait frapper, violer, tabasser et essayer d'arriver vers la France, vers, cette espèce de petit... cette œuvre de paix, voilà.
Oui.
Je pense que c'est un peu comme une odyssée, ce qu'elle a vécu avec toutes ces épreuves, et puis... on en parlait souvent à table, à la famille.
D'accord. Et en littérature, vous avez eu des lectures parfois de livres? Non, ça ne vous rappelle rien? On ne va pas parler d'Anne Frank, tout le monde a lu Anne Frank, c'est vrai. Mais je pensais à Christine Arnotti, j'ai 15 ans et ne veut pas mourir. C'est peut-être un peu ancien finalement. Ça se passe à Budapest sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre que je vous recommande, il est très intéressant. Un sac de billes de Joffreau également.
Primo Levi aussi.
Oui.
C'est pas un enfant.
Non, c'est pas un enfant,
Voilà, et puis plus récent, beaucoup plus récent, elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rossi aussi. Comment vous voyez celui qui raconte donc cet enfant? Comment le voyez-vous?
Innocent à la base, et puis au fur et à mesure, par ses actes et par ce qu'il voit, etc., il grandit très rapidement, trop rapidement.
Donc il y a une évolution dans le... Oui. Et les personnages qui l'entourent, comment sont-ils? Comment voyez-vous? D'abord, déjà, il décrit l'Afrique. Parlons un peu d'Afrique, parce que moi, j'ai trouvé ça magnifiquement décrit. Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Une très belle Afrique, on a... C'est pas du tout l'image de l'Afrique qu'on peut en avoir avec un sol craquelé et tout. C'est pas du tout ça l'Afrique en fait.
Oui, on ne voit que la misère alors qu'il y a une. Oui, il y a autre chose.
Il parle des grands lacs, tout ça.
Ouais.
C'est beau. C'est vrai qu'on apprend des choses. Moi, c'est vrai que j'avais une vision très clichée de l'Afrique. Voilà, le désert, etc. Et je pensais pas qu'il y avait des lacs, des forêts super grandes, plein de verdure, etc. Parce que moi, j'en avais la vision super clichée, par exemple.
Oui.
Ils se baignent souvent.
Moi, j'avais vu des reportages des fois.
À la télévision.
Ça m'arrive à la télévision de regarder Rendez-vous en terre inconnue, etc.
Et Nicolas Hulot faisait.
Oui, aussi, oui, c'est vrai.
C'est vrai,
vous voyez.
Voilà, quand c'était encore ça. Puis aussi, on a vu, c'est vrai, c'est ça, ces beaux paysages d'Afrique. Où,
Et d'autre part, ce qu'il montre de l'Afrique, c'est son regard. Il y a une belle description de l'Afrique en temps de paix, mais c'est vrai qu'on va voir justement petit à petit ce que vous disiez à l'instant, une évolution. Ce paysage va tout d'un coup perdre de sa vitalité. Alors il y a une lecture que Mao pourrait peut-être nous faire sur l'Afrique, à la fois belle et dangereuse.
Oui, donc c'est le début du chapitre 11. Donc, rien n'est plus doux que ce moment où le soleil décline derrière la crête des montagnes. Le crépuscule apporte la fraîcheur du soir et des lumières chaudes qui évoluent à chaque minute. À cette heure-ci, le rythme change. Les gens rentrent tranquillement du travail. Les gardiens de nuit prennent leur service. Les voisins s'installent devant leur portail. C'est le silence avant l'arrivée des crapauds et des criquets. Souvent, le moment idéal pour une partie de football, pour s'asseoir avec un ami sur le muret, au-dessus du caniveau, écouter la radio, l'oreille collée, au poste, ou rendre visite à un voisin. Les après-midi d'ennui finissent enfin par expirer à petits pas fuyants. Et c'est dans cet intervalle, dans ces instants épuisés, que j'ai retrouvé Gino, devant son garage, sous le frangipanier odorant, et qu'on s'allongeait tous les deux sur la nette de Samu, le veilleur de nuit. On écoutait les nouvelles du front sur le petit poste grésillant. Gino ajustait l'antenne pour atténuer la friture. Il me traduisait chaque phrase. Il mettait tout son cœur. Voilà.
Alors, comment vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de la beauté des paysages africains. Est-ce que, comment vous voyez l'Afrique aussi, la vie en Afrique, comment vous l'avez perçue, vous?
Alors moi, personnellement, cette année, j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 mois en Afrique.
Ah, et où?
En Afrique du Sud, pour apprendre l'anglais. J'ai eu la chance de pouvoir voir Soweto, de voir la pauvreté et en même temps la richesse. L'Afrique, c'est reste quand même un continent qui a été colonisé, où il y a eu beaucoup de choses. Donc il y a vraiment des écarts entre les riches et les pauvres. Et c'est très difficile de pouvoir... quand on est pauvre, de pouvoir avoir les moyens d'aller à l'école, d'avoir des vêtements, d'avoir de l'eau, de l'électricité. Et Gaël Faye représente un peu une... chaque partie du livre est très différente. On sent qu'il est quand même une famille riche, une famille de colons, mais il a quand même...
Le père est français.
Le père est français, oui. Il y a quand même derrière comme une pauvreté un peu. Il lui manque quelque chose et des fois il décrit des endroits qui sont pauvres, comme le terrain vague où il y a juste une vieille Volkswagen dessus et on voit des... Il habite dans un quartier riche, et en même temps à côté il y a quelque chose de très pauvre.
Mais en même temps, c'est vrai ce que vous dites, il y a cette pauvreté, mais en même temps la vie, comment vous paraît-elle? La vie de cet enfant, de ses enfants ensemble.
C'est quand même une vie conviviale. Avant la guerre, c'est... Les habitants, ils se retrouvent, je sais pas comment dire, dans un café pour discuter et dans l'anonymat. Ils font des fêtes tous ensemble sans que ce soit prévu. Et
les enfants quelques...
ouais, les enfants, ils jouent ensemble.
Une bande d'amis, ouais.
Comme tous les enfants du monde, enfin même peut-être...
Sans différence du fait que lui, il est métis, il y a de ses amis qui sont métis, mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Enfin, le fils de l'ambassadeur, il est pas... Il est
blanc.
Non. Il est complètement... Non, il est complètement africain, il n'est pas métis. Et du coup, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un message, c'est que y a pas de... pour eux, il n'y a pas de différence. C'est des enfants, ils ne voient pas la différence. Mmh. Là où les adultes la verraient plus.
Et est-ce que vous voyez une différence entre ces enfants africains là qui jouent? Bon, ils paraissent pas misérables quand même là.
Non,
et
non.
C'est des enfants français par exemple, ils ont non, vous voyez, vous trouvez pas qu'il y a quand même...
C'est même j'ai trouvé qu'ils étaient assez proches des enfants français, oui. Par exemple, le moment où ils en France on n'a pas ça, mais quand ils attrapent un fruit. Mmh. À côté, et qu'il le mange.
Il le vole.
Il le vole. Oh, c'est un
oui, arbre. Un larcin.
Un petit larcin, mais et qu'il le mange là, c'est un petit bonheur d'enfance. Mmh. Pour un petit pays, c'est un petit bonheur, et pour les enfants, c'est pareil. Qu'en France.
Ils n'ont pas plus de liberté que les petits Français.
Bah, ils passent leur vie dehors. Hein. Oui, c'est sûr, ils passent leur vie dehors. Après. Comme ils viennent d'un milieu qui est quand même assez privilégié, je pense que ils sont quand même leur mode de vie n'est pas le même que ceux des Africains de classe moyenne. Eux, ils sont quand même supérieurs dans leur classe sociale. Du coup, ils ont un rythme de vie qui ressemble quand même pas mal à celui des Français. À part le fait que, ils passent leur vie dehors.
Oui, parce que chez Gabriel, enfin Gabi. Il y a quand même un cuisinier, il y a Donatien,
ils ont des domestiques.
Oui, ils ont des domestiques.
On retrouve quand même un certain héritage colonial. J'ai trouvé personnellement, voyait que le père, il avait quand même sous ses ordres pas mal de... il y avait Innocent, il y avait Donatien.
Côté Donatien, Innocent.
Oui, et n'oublions pas quand même que les Africains eux-mêmes, quand ils accèdent à un certain niveau matériel, ont également des domestiques.
Hein. Oui.
Oui. Oui, parce que...
Oui.
Les Belges, je crois, ils ont instauré cette hiérarchie chez les Africains, entre Tutsis ou Tutsis, en considérant les Tutsis.
Ah, alors là, c'est encore
c'est la base du conflit.
Oui. Encore autre chose, mais il y a une hiérarchie, en fait.
Oui. Est-ce qu'ils en parlent dans le livre? Est-ce qu'ils en parlent dans le livre?
Il avait un ami, le père, père à Gabi. Oui, Jacques. L'ancien colon... belge, on retrouve vraiment les idées coloniales.
C'est le cliché. Mmh.
C'est le cliché du colon blanc, très raciste et très méchant.
Pas forcément méchant.
Oui,
le gros bof qu'on aime bien tourner en ridicule.
Ouais, il est pas sympa avec son cuisinier.
Oui,
il dit mon macaque en cuisine fait tout griller sous prétexte que ça tue les parasites. Enfin, il est un peu dur.
Je trouve qu'il a même tourné en ridicule, montrant à quel point ses idéologies complètement stupides.
Être raciste sans le vouloir. Enfin,
alors justement, on parlait de sa condition de métisse. À aucun moment ça n'apparaît, le fait qu'il soit métisse.
À partir d'un moment où la guerre elle est présente, il est constamment entre deux, il sait pas où il est et il se fait insulter, il est pas accepté par les Hutus et Tutsis, mais il est pas accepté non plus chez les Blancs comme étant un des leurs. Il sait pas où il est.
Même dans sa propre famille, on l'appelle le petit Français, quoi.
Oui. Il ne sait pas de quel côté, effectivement. Et ça, c'est peut-être un petit peu aussi difficile à vivre, quoique tout était difficile à vivre à ce moment-là. Alors, il subit, il me semble, quand même plusieurs traumatismes, ce petit garçon.
Oui.
Le premier, d'abord.
Oui, je rappelle.
Le divorce entre ses parents.
Le divorce des parents. Il a été harcelé par un enfant plus grand.
Oui, par un plus grand, je me rappelle plus son prénom.
Moi non plus.
qui finit dans leur bande à la fin.
Oui.
Oui.
Oui. Mais après,
qui le tape dans la rivière, qui le fait.
La mort de ses cousins.
Non.
La mise à mort de ses cousins, la folie de sa mère.
Un des employés de son père qui devient un chef de résistance complètement fou furieux.
Oui. Et il y en a un autre qui était très paternel avec lui, qui s'occupait de lui.
Le cuisinier.
Oui. Bon, et le départ de la mère, ça ne vous a pas interrogé? Pourquoi part-elle, sinon, finalement?
Dans le livre, elle part pour pouvoir retrouver sa famille, pour essayer de faire sortir du pays,
du Burundi.
Du Rwanda.
Aller au Burundi, elle va au Rwanda.
Voilà. Pour faire sortir sa famille qui est au Rwanda
elle va là-bas pour pouvoir les retrouver, les faire sortir et les ramener au Burundi.
Elle va les retrouver, mais pas...
C'est ça.
Mais pas vivant.
Oui. Oui, elle les retrouve. Oui,
mais elle part en fait.
Avant ça, elle passe le
nouvel an avec Anna et le père il reste avec Gabi.
Et elle voulait surtout quitter l'Afrique pour aller en France.
Oui, c'est ce qu'elle voulait.
Le premier jour.
Elle voulait la sécurité pour ses enfants et son mari n'était pas d'accord.
Alors justement, pour en ce qui concerne la famille, donc il y a ces premiers traumatismes, le départ de la mère. Puis après ce que vous vous dites là, peut-être que Jessica pourrait lire ce dernier dimanche en famille.
Oui. Donc c'est le début du chapitre 3. Après le repas, papa nous a conduits jusqu'à la forêt de Kigwena pour voir les babouins. Nous avons marché presque une heure sur un petit sentier glaiseux sans rien repérer, excepté quelques tours à cause vert. L'ambiance entre maman et papa était pesante. Ils ne se parlaient pas et se fuyaient du regard. J'avais les chaussures pleines de boue. Anna courait devant pour tenter de découvrir les singes avant tout le monde. Puis papa nous a fait visiter l'usine d'huile de palme de Rumonge, dont il avait supervisé la construction à son arrivée au Burundi en 1972. Les machines étaient vieilles et tout le bâtiment semblait recouvert d'une substance graisseuse. Des monticules de noix de palme séchaient sur de grandes bâches bleues. Une immense palmeraie s'étalait à des kilomètres à la ronde. Pendant les explications de papa sur les différentes étapes du pressurage, j'ai vu maman s'éloigner pour rejoindre la voiture. Plus tard, sur la route, elle a remonté les vitres pour mettre la climatisation. Elle a inséré une cassette de Kajanin dans le lecteur et avec Anna, on s'est mis à chanter Sambolera. Maman nous a accompagnés. Elle avait un joli timbre de voix qui caressait l'âme, mettait des frissons autant que la clim. On avait envie d'arrêter la cassette pour n'entendre qu'elle.
C'est joliment dit, non ? La guerre qui s'installe, comment l'a-t-il montré ça selon vous ? Comment ça se passe ?
C'est
rapide, brutal.
C'est rapide et brutal.
Ouais.
Oui, enfin quand même, on voit quand même que ça. Vous dites que c'est rapide et brutal, mais quand même au début, on voit quand même qu'il dit qu'au fur et à mesure, c'est d'abord. Les gens ont commencé par un peu stigmatiser chaque communauté. Après, ils ont séparé... Enfin, les gens étaient plus amis avec ceux qui étaient d'une communauté différente. Au fur et à mesure, ça va crescendo.
Il y a des signes prémonitoires, voilà. Mais ça se fait quand même du jour au lendemain parce qu'il y a l'euphorie des élections. Et lendemain, tout est calme, il n'y a aucun bruit et tout part très vite, quoi.
Il y avait quand même aussi le passage où ils allaient pour le mariage, où ils se sont fait interpeller par les militaires.
De manière violente.
Ah ben là, voilà, c'est, la violence, elle était palpable, mais elle était, d'après ce que j'ai lu, en tout cas je me rappelle que c'était... On savait qu'elle était présente, mais elle n'était pas encore en plein jour.
Oui, on sait qu'elle est présente, parce que même le mariage, ils le font hyper rapidement, presque en cachette.
C'est ça.
La mère sentait que ça allait arriver quand même, parce qu'au début, elle dit qu'à chaque fois, il y a des guerres, des génocides. Elle le dit au début, qu'elle veut partir en France
parce qu'elle a peur et elle veut protéger sa famille. Bon, on sent donc l'atmosphère aussi. Je ne voudrais pas qu'il rentre très bien, ça, Galfaï. Est-ce que vous voyez un tournant dans le récit, dans son récit ? Alors, c'est vrai, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une partie qui est plutôt joyeuse, où on voit enfant dans une Afrique chaleureuse, et puis bon, après, tout ce qui s'installe plus ou moins rapidement. Quel est le tournant ? Est-ce qu'il y a un moment donné où tout bascule ?
Oui.
Oui ?
Moi, je dirais que c'est aux élections.
Au moment des élections, ouais.
Moi, je dirais quand il est allé chez sa voisine grecque, pour commencer à lire, peut-être.
Ah !
Qu'il avait commencé à rapporter à la longue vue, si je me rappelle. Bon, ça fait un moment. Qu'il avait rapporté un objet qu'un de ses amis avait volé, qu'il avait voulu ramener parce que c'était une femme qui a.
Une étrangère.
Une étrangère grecque qui n'était pas raciste, qui n'était pas méchante, qui est même plutôt douce dans ce climat. C'était la personne la plus douce du livre. Qu'elle lui a fait ouvrir le monde, qu'elle lui a donné le monde des livres.
Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un bel hommage à la littérature.
Oui.
Oui.
au bonheur de lire. Là, j'ai affaire à des lecteurs, de toute façon. Bon, confirmé même, puisque j'en ai déjà vu qui sont venus ici. Cette bibliothèque, le bunker de son imaginaire, dit-il. En quoi ça le sauve, selon vous ?
Eh bien, il se retrouve face à un livre. Un livre, quand on voit, c'est pas grand-chose. C'est des feuilles accrochées les unes aux autres avec des écritures. Mmh. Et puis, il va commencer à lire. Il va oublier tout ce qu'il y a autour. Guerre, ouais. Les problèmes de la famille, les problèmes avec les amis. Tous les problèmes qu'il peut avoir, il les oublie quand il commence à lire. Pour lui, c'est vraiment, il se retrouve dans son bunker et il va pas en sortir vu que pour lui, c'est une sécurité.
Ouais,
il est ailleurs.
Tout à fait. Ouais. Ouais,
ça lui permet de voyager en soi parce que lui, il est coincé dans son pays où il y a la guerre et tout. C'est un échappatoire, en fait.
Oui, c'est un échappatoire, tout à fait. Et à un moment donné, c'est elle, je crois, qui dit... cette vieille dame grecque, un livre peut nous changer, bien sûr un livre peut te changer et même changer ta vie comme un coup de foudre. On ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres, ce sont des génies endormis. Bon, est-ce qu'il faut... écoutez, la prochaine fois, hein, on en parlera. Bon, alors, en tout cas, j'aimerais savoir ce que vous pensez. On a parlé aussi de la violence. On n'a pas parlé de la violence dans le monde des enfants, dans le monde des jeunes, des plus jeunes. Elle est montée, elle aussi, elle va de pair. Vous n'avez pas trouvé ça très dur ?
Ah si. Quand il y a leur ennemi là, qui veut les noyer dans un ruisseau.
Il les aurait tués.
Avec Francis.
Oui, c'est ça, Francis.
Je peux lire le passage ou...
Oui.
J'ai beau chercher, je ne me souviens pas du moment où l'on s'est mis à penser différemment.
Un peu plus lentement, ça sera bien.
À considérer que dorénavant, il y aurait nous d'un côté et de l'autre des ennemis comme Francis. J'ai beau retourner mes souvenirs dans tous les sens, je ne parviens pas à me rappeler clairement l'instant où nous avons décidé de ne plus nous contenter de partager le peu que nous avions et de cesser d'avoir confiance, de voir l'autre comme un danger, de créer cette frontière invisible avec le monde extérieur en faisant de notre quartier une forteresse et de notre impasse un enclos. Je me demande encore quand les copains et moi nous avons commencé à avoir peur.
Sur cette dernière phrase, et on reprendra ensuite, on va faire une pause musicale et c'est un chant africain encore.
Faut pas rêver, c'est plus la peine. Faut plus mentir, jouer des scènes. La seule réponse à tous nos problèmes, faut qu'on s'aime. Toutes nos histoires, où ça nous mène? Des cris, des larmes, c'est tout ce qu'on sème. C'est le moment de changer de rengaine, faut qu'on s'aime. Si ça ne tient qu'à nous, faut qu'on s'aime. C'est ça d'abord, avant tout, faut qu'on s'aime.
Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime.
Faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime.
L'amour au moins donné.
Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime.
Faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime.
L'amour au moins donné. On se fait des bleus, on se fait des scènes. Sécher nos yeux, ça vaut la peine. Est-ce qu'on va rester toujours les mêmes? Faut qu'on s'aime. Qu'est-ce qu'on attend pour se plaire? Pour enterrer nos haches de guerre? La seule réponse à tous nos...
Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime,
faut qu'on s'aime,
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, la pause musicale que nous venons d'écouter était d'Ismaël Lowe, Tant qu'on s'aime, et je pense que dans ce livre qui parle de tant de violence, avoir ce titre-là, c'était peut-être pas mal. Alors, nous retrouvons Mao Bongard, Jessica Queneau, Sancy de Corneille, de Corail, Raphaël Navarro et sous la houlette de Laetitia Géraldès-Sabat qui est bien sage, hein, qui écoute. Bon, vous ferez des remontrances après peut-être. Non, elle dit non. Bon, non, ils sont parfaits, vos élèves. Ils sont parfaits et très, très des littéraires qui lisent. C'est bien. Merci. On parlait quand même de ces jeunes, de ces gamins. Ils ont quoi? Ils ont entre 6 et 12 ans, non, je pense. Vous avez une idée de l'âge?
Plus.
Plus, vous croyez?
11 ans. Entre 11 et 14 ans plutôt.
Mmh. Oui, peut-être.
C'est
oui.
la petite sœur qui a 6 ans.
8 ans, je crois.
Voilà. Elle a 8 ans, la petite sœur, lui, il a 11 ans.
Oui. Mmh. Donc, ils vont vivre des tensions, des ruptures, de la violence. Et il y a plusieurs scènes de violence. Voyons, dites-moi, quelle est celle qui vous a le... Oui.
Je crois qu'on l'a dit. Celle où il découvre ses enfants, où la mère raconte qu'elle a découvert les cousins morts. Moi, je trouve ça la pire scène.
Ouais. Il y avait ça et plus le...
Alors, cette scène-là, c'est des cousins qui...
morts depuis plusieurs mois. Parce que c'est des personnages qu'on nous présente quand même pas mal.
Des enfants.
Ouais, c'est des enfants.
Mais c'est carrément toute sa famille.
C'est sa famille. Oui.
Et des cousins du même âge, non?
Ouais, la scène est quand même... Il y a quand même des détails où ils disent que qu'on voit que ça fait plusieurs mois qu'ils sont morts.
Ça fait 3-4 mois que les cadavres,
sont explosés dans la cuisine.
Le sang ne peut pas partir.
Le sang ne peut pas partir.
Et la mère a vraiment accentué sur l'horreur. Elle aurait pu éviter certains sujets pour un enfant.
Elle raconte ça toute la nuit à sa fille.
Mais elle est traumatisée.
Elle devient folle à partir de ce moment-là, en fait.
Parce que si vous lisez Une saison de machette, donc de Asfeld, et là, c'est ce qui s'est passé vraiment dans toute son horreur. Oui, alors il y a cet épisode, il y a d'autres épisodes terribles aussi, où là, il y a une action même de la part du garçon, non?
Le coup du taxi.
Oui, le coup du taxi, hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire déjà? Vous pouvez me la rappeler? Allez, Raphaël. Voilà. Oui, bon.
C'est au chapitre 23. Innocent a souri, étonné de ne pas avoir eu l'idée lui-même. Il s'est rapproché de moi, le zippo allumé à la main. Mes tempes et mon cœur battaient à tout rompre. J'ai tourné la tête à droite, à gauche, pour trouver de l'aide. J'ai cherché Gino et Francis dans le groupe. En croisant leurs regards, j'ai vu qu'ils portaient le même visage de mort que les autres. Innocent a refermé ma main sur le briquet. Il m'a ordonné de le jeter. L'homme qui était dans le taxi me regardait avec une intensité. Mes oreilles bourdonnaient. Tout devenait confus. Les jeunes du gang me bousculaient, me frappaient, hurlaient près de mon visage. J'entendais les voix lointaines de Gino et Francis. Des cris de fauves, des salves de haine fiévreuse. Clapton parlait de papa et d'Anna. Je discernais difficilement ces menaces au milieu des appels au meurtre et du brouhaha ambiant. Innocent s'est énervé et a dit que, si je ne le faisais pas, il irait lui-même dans l'impasse, s'occuper de ma famille. Je voyais l'image paisible de papa et Anna allongés sur le lit devant la télévision, l'image de leur innocence, de toutes les innocences de ce monde qui se débattait à marcher au bord des gouffres, et j'ai eu pitié pour elle, pour moi, pour la pure gâchée, par la peur dévorante qui transforme tout en méchanceté, en haine, en mort, en lave. Tout était flou autour de moi, les vociférations s'amplifiaient. L'homme dans le taxi était un cheval presque mort. S'il n'existe aucun sanctuaire sur Terre, y en a-t-il un ailleurs ?
Oui, c'est poignant. Sancy, tout à l'heure, vous avez dit que là, c'est là où il y a...
C'est là où il perd son innocence. Enfin, il est face à un cas de conscience qui n'est pas de son âge. À son âge, il n'a pas à choisir entre la vie d'un homme ou celle de sa famille. Et c'est quand même terrible. Même personne ne devrait avoir à faire ce choix-là. Et il est quand même... il est jeune, il a 12 ans, 11 ans. Du coup, c'est très dur. Il a le choix... De mettre le feu à une voiture où quelqu'un est enfermé dedans, ou alors c'est sa famille qui prend, donc c'est terrible comme choix.
Et puis qui peut juger de la vie ou la mort de quelqu'un? Surtout là, c'est comme là, même si c'est un enfant ou un adulte ou un vieillard, personne n'a le droit de juger la vie sur la vie ou la mort. Qui est assez culotté pour le dire?
Et même si ce gars, même si la personne dans la voiture n'est pas une bonne personne, puisqu'elle a tué, je crois, d'autres personnes.
Oui, elle a tué. Mais même.
Mais ce n'est pas une raison. Parce que là, du coup, comme cette personne a tué, elle est condamnée à être tuée. Et c'est dur pour. Et c'est un enfant de le mettre à mort. Donc c'est.
En plus.
C'est terrible.
Plus dur, ouais.
Et puis tout le monde mérite d'avoir un jugement. Quand bien ce serait le plus immonde des monstres, même les nazis, ils ont eu un procès. Tout le monde mérite au moins d'avoir un procès.
Malheureusement, les guerres, dans les guerres, voilà.
Il n'y a pas de procès.
Oui, il n'y a pas de procès.
La loi martiale, voilà, oui. Mais...
c'est la loi d'Italien, œil pour œil, dent pour dent.
Ah ben c'est ça, mais...
Mais surtout, le fait d'obliger cet enfant, finalement, c'est cette obligation aussi de lui faire tuer quelqu'un.
Oui.
Il en est très conscient.
Ah oui, 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 bah oui. Il sait que ce qu'il fait, ce qu'il va faire est irréversible et il s'en remettra jamais. Mmh. Ça lui restera toujours sur la conscience.
Oui, c'est vrai que ce sont des passages lourds. Alors pour nos auditeurs, il faut dire que heureusement il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai qu'il y a cet épisode des cousins qui sont retrouvés morts et cet enfant entend tout, il comprend tout. Il y a l'histoire de la bicyclette également.
Ah, oui.
Hein, qu'est-ce que c'est l'histoire de la bicyclette?
Bah, c'est pour son anniversaire. Gabriel reçoit une bicyclette.
Il est heureux.
Une bicyclette rouge et c'est le meilleur cadeau qu'il a pu recevoir. Il est hyper heureux. Et un jour, un des domestiques s'enfuit avec la bicyclette. Et alors là, pour Gabriel, c'est le drame. Il a perdu sa bicyclette. Il veut la retrouver. Et donc, ils vont faire
le tour de la ville
pour retrouver. Et ils vont retrouver la bicyclette chez une famille très très pauvre qui a dû économiser plusieurs années pour avoir ce vélo. Et ils vont reprendre ce vélo
au petit garçon
qu'il avait eu.
Et Donatien lui demande à Gabi ce qu'il a fait, c'est mal
et qu'il aurait dû la laisser. Et à côté, il y a Innocent qui dit mais non, c'est ton cadeau, tu le reprends, c'est à toi, c'est pas à cet enfant. Cet enfant l'a volé.
Même Donatien, il a supplié.
Oui, il le supplie de le laisser.
Et il le prend quand même.
Et Gabi le reprend.
Et Gabi, à la fin, il a des remords.
Gabi, il a des remords d'Innocent.
Oui.
Gabi, il respecte Innocent. Innocent lui fait peur. C'est quelqu'un de très strict, de très froid avec lui.
C'est pas du respect, c'est plutôt de la peur, tu as raison.
Oui, c'est vrai.
Du coup, il va reprendre ce vélo, mais à contre-cœur.
Et à la fin,
il a tellement de remords qu'il dit « je ne toucherai plus jamais à ça ».
Il ne touchera plus jamais, enfin, à la fin de ce passage-là. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a enlevé le vélo à un petit garçon qui avait...
Pour rien.
Pour rien, parce qu'il aurait... Son père était riche et du coup, il aurait pu lui racheter un nouveau vélo. Et ce petit garçon-là, ses parents avaient économisé, c'était endetté pour lui acheter ce vélo. Et le pire, c'est qu'à la fin, le petit dit qu'il ne voudra plus jamais monter sur ce vélo pour se punir de...
Pourquoi a-t-il mis cet épisode-là, Gallifrey, dans ce roman ?
Égoïsme enfantin, je trouve, un petit peu.
Pour prendre peut-être la réalité de la chose, que certains, en un claquement de doigts, ils peuvent avoir une bicyclette, alors que d'autres, ils mettent des années, des mois, que les parents, ils en suent.
Peut-être pour montrer que Gabi, quand même, il n'est pas pauvre dans cette histoire. Enfin, il est quand même gâté. Hein.
Et même les mots de Donatien qui peuvent sembler durs, et qui lui dit, quand il lui dit à Donatien que je ne veux plus jamais toucher la bicyclette, tout ça, Donatien lui répond que c'est trop tard. Que ce qu'il a fait, c'était mal, mais qu'il l'a fait et qu'il ne pourra plus le changer.
C'est trop tard, tu as péché.
Et là, d'une certaine manière, c'était une leçon très dure, mais une vraie leçon de la vie.
Tout à fait. Oui, cet enfant apprend. Et finalement, il apprend au fur et à mesure, il apprend d'une manière rude les aléas de la vie. Mais en revanche, tout à l'heure, on a parlé d'humour. Alors, heureusement qu'il y a de l'humour. Alors là, je me tourne vers Jessica parce qu'elle a parlé d'humour. Effectivement, à bien des endroits, parce que c'est un enfant, donc il dit les choses telles quelles, souvent.
Oui, c'est très drôle. Il y a des passages comme la circoncision des cousins. C'est énorme.
Oui, là, je me souviens.
Même les cousins... Les jumeaux, pardon. Les jumeaux tout court, c'est un sketch, quoi. Quand ils claquent des doigts, ils...
Le coup du gigot.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est, le coup du gigot?
Je peux vous le lire, si vous voulez. Nous étions tous les trois silencieux, perdus dans nos pensées sombres, quand Gino est arrivé. Gabi, ramène-toi, faut que je te montre un truc. Il était fébrile. Il m'a tiré de mon tabouret et s'est mis à courir devant moi. Je l'ai suivi, clopin-clopant, sans poser de questions. J'ai remonté l'impasse, aussi vite que je pouvais, et suis arrivée chez lui complètement essoufflée. Francis et Armand étaient assis sur la table de la cuisine. Et Gino est allé vers le réfrigérateur. Dans le salon, on entendait le cliquetis de la machine à écrire de son père. « Allez-y, maintenant, ouvrez le congélateur », a dit Gino en nous regardant, Armand et moi. Francis était de mèche, ça se voyait. Il regardait Gino d'un air complice, qui me faisait craindre le pire. Armand a tiré sur la poignée du congélateur. Je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. J'ai pris l'un des deux objets dans ma main. Merde, une grenade! Je l'ai immédiatement reposé. J'ai refermé la porte et me suis reculé au fond de la pièce. Devinez à combien on a eu les deux grenades, a dit Gino, excité, avant de poursuivre sans même attendre notre réponse. 5 000. Francis connaissait le type des 100 défaites. Il lui a expliqué que nous aussi on s'occupait de notre quartier et il nous a fait un prix. Normalement, c'est 2 fois plus cher. Mais putain, Gino, t'as des foutues grenades dans ton frigo, hardièrement. T'es devenu complètement dingue, ma parole. C'est quoi ton problème, a demandé Francis en l'attrapant par le col. Bande de tarés, a répété Armand, paniqué. Vous avez acheté des grenades pour les mettre à côté d'un filet de bœuf congelé et tu me demandes si moi j'ai un problème? Ferme ta gueule, Armand. Mon père pourrait nous entendre. Allons à la planque. Gino a sorti les grenades du congélateur, les enfuit dans un sac en plastique et on a filé au combi Volkswagen.
C'est encore plus drôle en l'écoutant qu'en le lisant. Ah non, alors, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, Jessica, vous voulez parler encore d'humour, je crois.
Non. C'est les jumeaux qui sont drôles, vraiment. Comme des personnages de BD.
Coup du gigot, au pire, si jamais le père, il ouvre un petit peu violemment le frigo...
Ouais. Oui, il reste pas dégoupiller une grenade. Hein.
Ouf, tu sais, le froid conserve.
Alors, j'ai deux passages là qui me paraissent intéressants parce que maintenant c'est une interview que j'avais lue de Gaël Faye qui dit je vis depuis des années dans un pays en paix. Je pense que Raphaël pourrait nous le lire, cet extrait, et nous dire ce qu'il en pense.
Si.
Oui, c'est tout ça.
Ah, d'accord.
Tout en rouge.
Oh. Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse, où les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de loin. La nuit, me revient le parfum de les ruelles d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine sur le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Rumonge. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le jardin, l'appel du muezzin dans le lointain.
Voilà. C'est un livre que vous avez aimé.
Oui, beaucoup.
Oui. Beaucoup.
Oui.
Oui.
Oui. Il fait écho à des sujets actuels, les génocides actuels, les Rohingyas.
Rohingyas,
je ne sais pas comment
c'est le. Je me suis renseigné par rapport à ça aussi. Mmh. Et ben, en fait, hormis pour les raisons économiques, les Rohingyas, c'est aussi du fait que dans ce pays-là, ils avaient, je vais utiliser un mot fort pour, en français, collaboré, entre grandes guillemets, avec les colons britanniques pour l'administration de l'endroit du pays. Donc, quand les colons anglais sont partis, c'est comme ce qui s'est passé en Inde, comme dans les années 1946. Où les hindous et les musulmans se sont fait une guerre civile.
C'est de l'ethnisme,
Oui, c'est un
génocide qui peut faire penser au génocide rwandais. Et du coup, j'ai lu ce livre avant d'entendre parler
du génocide des Rohingyas.
Voilà, des Rohingyas. Et après, j'ai entendu le génocide et je me suis dit, ça me faisait beaucoup penser à ça.
Tout se répète en fait. Mmh.
Bon, et une très belle écriture aussi.
Ah oui.
Un très bon choix, je vous remercie. Je sais que la prochaine fois, je ne sais pas si c'est vous qui viendrez. Ça sera encore un prix Goncourt des lycéens et ce sont toujours de très bons choix de lecture. Merci encore. Alors, merci à Mao, à Jessica, à Sansi, à Raphaël et à Laetitia Géraldès-Sabat. Merci d'être venue jusqu'à nous. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.